France Info.
Bonsoir à tous. Dans l'interview Écho ce soir, nous partons pour les États-Unis sur les traces des travailleurs campeurs. Bonsoir Jessica Bruder.
Bonsoir.
Vous publiez Nomadland aux éditions Globe. Vous êtes journaliste, vous êtes américaine. C'est une enquête, un reportage sur ces Américains qui ont parfois plus de 70 ans, qui vivent dans leur van, dans leur caravane et qui continuent à travailler malgré tout. Je vais citer juste un extrait de votre livre pour commencer. J'ai longtemps cru que les conducteurs de camping-car étaient de braves retraités sillonnant tranquillement les routes d'Amérique pour faire du tourisme. Sauf que ce ne sont pas des touristes, ce sont des travailleurs, ce que vous appelez des travailleurs bouche-trou. Que font-ils, Jessica Bruder?
Ils font tout ce qu'on peut imaginer comme type de travail. Ils vont aider par exemple à la récolte de la betterave. Ils travaillent chez Amazon aussi. Ils travaillent dans un programme qui s'appelle Camper Force. Ils travaillent dans les entrepôts. Ils travaillent dans des parcs à thème également. Également dans des attractions touristiques type World Drug ou Dollywood. Ils travaillent vraiment sur la côte est comme sur la côte ouest et entre ces deux côtes évidemment à peu près partout.
Vous les appelez plusieurs fois dans votre livre des réfugiés de l'immobilier ou bien des réfugiés de la récession, de la crise de 2008. Est-ce que ce sont des réfugiés dans leur propre pays? Que leur est-il arrivé à tous ces gens que vous avez croisés?
Mais précisément, they are...
C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pris entre des salaires très faibles et en même temps une augmentation du coût du logement et puis un mauvais accompagnement également de la retraite. J'ai rencontré des gens sur la route qui avaient tout perdu en 2008, leur maison, leurs économies, des gens qui avant 2008 s'en sortaient à peu près, n'avaient rien mis de côté pour la retraite. Et puis j'ai aussi rencontré des jeunes qui avaient des dettes, par exemple, pour payer leurs études universitaires, ou qui avaient d'autres types de dettes et qui ont dû aller sur la route, donc pour toutes ces raisons-là.
Et leur retraite, où est-elle passée?
Nowhere. It's gone nowhere.
Elle est passée nulle part, leur retraite. C'est-à-dire que, autrefois, aux États-Unis, les gens avaient un emploi qu'ils gardaient pour la totalité de leur vie professionnelle et puis après, ils avaient une pension de retraite. Et à ce moment-là, ils avaient le choix de disposer de ce reste de leur vie après la retraite. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vraiment vivre ces années qu'on appelle les golden years, ces années de bonheur, où ils pouvaient éventuellement travailler s'ils le souhaitaient. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus le choix, ou de moins en moins en tout cas, après la retraite.
Vous en avez rencontré énormément tout au long de votre enquête, de votre reportage. Est-ce que vous savez combien il y a aujourd'hui aux États-Unis, Jessica Bruder, de travailleurs campeurs? Combien sont-ils?
C'est difficile à dire en réalité parce qu'il n'y a pas de données démographiques fiables. On n'a pas de chiffres, moi je dirais des centaines de milliers de personnes probablement qui vivent comme cela. Et si, en fait, si vous pensez à la catégorie des personnes âgées qui font ça pour vivre, je vous dis, les chiffres sont considérables. Des dizaines de milliers de retraités vivent comme ça et c'est en plus des chiffres qui sont en progression.
Énormément de ces travailleurs se mettent au service d'une des entreprises les plus connues du monde. C'est Amazon, le géant du commerce. Certains vont d'entrepôt Amazon en entrepôt Amazon, avec leur van, avec leur camping-car. Quel travail Amazon leur propose-t-il ?
Ils travaillent dans les entrepôts, précisément. Alors moi, je suis allée, évidemment, undercover. Je me suis cachée dans mon van Allen, en l'occurrence. C'est ainsi que je l'ai baptisé. Et j'ai travaillé comme ces gens-là. Récupérer les objets, les emballer, trier le tout. C'est quelque chose qui est très difficile physiquement. Moi, j'avais une trentaine d'années lorsque j'ai fait ça. Il y avait des gens qui avaient plutôt 70 ans. Je me souviens d'un monsieur qui avait plus de 70 ans et qui marchait plus de 20-25 kilomètres par jour dans l'entrepôt.
Pourquoi est-ce qu'Amazon a recours à ces gens âgés plutôt qu'à des jeunes travailleurs? Quel est l'intérêt d'Amazon ici?
Parce que ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Ce sont des gens qui sont contents d'avoir un emploi. Et puis ces retraités aussi Ils n'ont pas accès à l'assurance médicale pour certains d'entre eux. Ils n'ont pas de protection sanitaire ou sociale. Et puis ce sont des gens qui sont fiers, qui ont une certaine dignité, qui sont contents de travailler. Les millennials, ils sont beaucoup plus, si vous voulez, habitués à ne pas travailler. Ils se disent que bon, si ça se passe bien, ils prendront un autre emploi. Mais les générations les plus anciennes n'ont pas, si vous voulez, ce passage d'un emploi à l'autre. Ils ont travaillé généralement dans un seul poste pendant toute une vie et ils ont cette même intégrité à l'égard de l'employeur Amazon.
Quand vous discutez avec eux, ils vous racontent la souffrance du corps. Il y a un détail qui m'a frappé, Jessica Bruder. Dans les entrepôts Amazon aux États-Unis, on leur fournit, on met à leur disposition des distributeurs gratuits d'analgésiques. Contre la douleur, c'est vrai ça ?
Oui, donc pour répondre à votre question, ben oui, moi-même, dans mon van, j'ai encore actuellement l'ibuprofène, j'avais de l'Advil, enfin. Et effectivement, il y avait un distributeur qui s'appelait Little Medic, qui était donc sur le mur et qui était en fait une machine à distribuer des cachets. Donc vous pouvez prendre effectivement autant de cachets que vous le souhaitiez. Alors ça, c'était pour le générique. Par contre, si vous vouliez le produit de marque, il fallait payer.
Vous les racontez, vous les décrivez vraiment dans leur vie quotidienne et notamment dans ces moments où, par centaines, par milliers, ils se retrouvent dans de grands villages mobiles, ils rassemblent leurs camping-cars.
Oui.
Pourquoi se rassemblent-ils ?
For community.
Eh bien, pour se retrouver
dans cette communauté,
pour être ensemble, pour le vivre ensemble. Parce que dans l'adversité, on tisse des liens, bien évidemment. Et puis, il y a quelque chose aussi, une joie de l'épreuve surmontée ensemble.
C'est presque une société parallèle que vous décrivez, Jessica Bruder. À côté de la société américaine habituelle, il y a ces gens, leur monde, leurs habitudes, leur tempo, leur lieu de réunion, c'est ça ?
Exactly. It's a subculture.
C'est exactement ça. C'est une sous-culture, je dirais. Souvent, lorsque j'enseigne moi-même, Amistad Maupin, vous savez, a parlé, par exemple, des familles logiques. Bon, il y a les familles biologiques et les familles logiques. Et la famille que l'on se trouve pour soi, c'est la famille logique.
Merci, Jessica Bruder. Votre livre, enquête, reportage étonnant, vraiment. Nomadland aux éditions Globe. Le livre vient de paraître et vous étiez ce soir l'invité de l'Interview Écho. Merci à Hélène Joguet qui traduisait vos propos ce soir.